Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans toute une vie, à la découverte de vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. Lorsqu'on entend ce nom, on pense immédiatement au congé payé, à la semaine des 40 heures, à une politique du bonheur, mais aussi à la guerre d'Espagne. De l'affaire Dreyfus à la France de l'occupation, en passant par le Front populaire, Léon Blum, c'est aujourd'hui dans toute une vie.
Mes chers amis, j'ai dit un jour à un journaliste étranger, bien que je ne sois pas un sportsman accompli, dis, nous ne courons pas une course de plat, nous courons une course d'obstacles. Un jour, nous sautons une haie, et mon Dieu, nous nous retrouvons sur nos pattes. Le lendemain, nous en sautons une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et je ne vois pas à quel moment nous trouverons devant nous le plat, la ligne droite. Et bien entendu, nous courons toujours le risque de faire panache au mur en terre ou à la rivière des tribunes. C'est cela qui donne, d'ailleurs, à notre vie un piquant, une saveur toute particulière. Tout ce que nous faisons, toute notre existence est pénétré au même degré du sentiment de l'éphémère et du sentiment de la durée. Et ce n'est pas une mauvaise règle de morale pour des gouvernements.
Il n'est pas dans la haine alors que lui, on le hait. Il est celui qu'on hait le plus. Je vous hais, disent l'extrême droite en permanence.
Il a une voix assez fluette, assez peu forte. Et c'est assez troublant de penser qu'à ce point, cet homme a pu galvaniser des foules alors qu'on entend à peine sa voix comme un murmure.
C'est un bonhomme épris de... justice à l'égard de tous et de l'affaire Dreyfus à la manière dont il réagit sur les Allemands après la guerre, dans un texte absolument magnifique où il dit qu'il n'y a pas de déterminisme ethnique, qu'il n'y a pas de race maudite et que les Allemands eux-mêmes, quel que soit ce qu'ils ont pu faire et ce qu'ils ont fait pendant la guerre et qu'il a subi lui-même au risque de mourir à son tour, il n'y a aucune malédiction qui pèse sur eux. C'est un homme totalement libre.
Il était grand, il était fin, et on l'a même dit dandy. Et c'est vrai que jamais, s'adressant notamment à des auditoires populaires, il n'a cru bon de mimer je ne sais quelle imitation. Quand il sortait de son appartement de l'île Saint-Louis, où il y a des films qui le montrent avec cette élégance qui lui était intrinsèque et qui, je crois, faisait partie de son refus de toute démagogie. Et aussi, qui était le signe d'un certain esthétisme en face de la vie, il ne pensait pas, je crois qu'il avait raison, que le goût du beau était incompatible avec une action politique généreuse.
Certains d'entre vous penseront peut-être qu'en dressant vis-à-vis du monde actuel cette image du monde possible, nous poussons l'idéalisme jusqu'à la chimère. N'oubliez pas cependant qu'à cette chimère, la vie universelle est suspendue.
Léon Blum, une politique pour la vie. Quelle est son histoire familiale ?
C'est un fils d'une famille juive alsacienne assimilée qui, au début du siècle, vit... bourgeoisement dans le Paris du début du siècle.
Dominique Missica, historienne.
Il a quatre frères, ils sont quatre fils, et je dois dire qu'il a un penchant pour son petit frère, le frère cadet, René Blum, qu'il chérit beaucoup et dont il est très proche, qui a la même sensibilité. Dirons-nous, ses deux frères aînés sont plutôt des hommes d'affaires, alors que les deux derniers, Léon et son frère René, sont plutôt de tempérament artiste. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a aussi, dans cet univers familial, une sorte de douceur, de calme, de sérénité, de gens bien installés, qui vivent bourgeoisement dans le Paris du fin de siècle.
Léon Blum est très représentatif d'un milieu de juifs citadins parisiens, intégrés de très longue date, qui avaient pris par rapport à la pratique de la religion juive des distances reconnues.
Jean-Noël Jeannet, auteur du documentaire « Léon Blum ou la fidélité » en 1974.
Et qui dans le même temps n'oubliaient pas leur origine juive. C'est une donnée que de toute façon on les contraignait à considérer, puisque le regard d'un certain nombre de gens, notamment à droite, dans ces années de son adolescence, c'est-à-dire les années 1890-95, un certain nombre d'esprits pervers et de mouvements d'extrême droite avaient développé un antisémitisme que ne connaissaient pas de telle manière les décennies précédentes. Et par conséquent, s'ils avaient oublié qu'ils étaient juifs, on leur aurait rappelé, comme à d'autres. Mais enfin, au moment où il approche de la trentaine, éclate l'affaire Dreyfus, qui d'un seul coup, par-delà les ignobles attaques venues de Drummond, de la libre-parole, de l'antisémitisme des années 90, par-delà vient cristalliser d'un seul coup l'opposition entre deux sensibilités, deux histoires, deux conceptions même de la République et deux conceptions de la vie se marquent d'une telle façon que forcément Léon Blum y est impliqué. Il est impliqué d'une manière qui, comme pour toute cette génération, va les marquer d'une empreinte décisive. On ne comprend pas Léon Blum, comme beaucoup d'autres de ses contemporains, si on ne revient pas à l'affaire Dreyfus.
Il a une position très atypique dans le judaïsme de son époque.
Milo Lévy-Brul, historien.
Donc les juifs de l'époque sont appelés, on les appelle les israélites, ils ont à cœur de montrer leur intégration. Et donc la meilleure manière à la fois de bénéficier de l'ascension sociale que permet l'émancipation juridique, l'égalité des droits qu'ils ont obtenus depuis la Révolution française, et en même temps de démontrer leur intégration, c'est les deux phénomènes, c'est de d'œuvrer pour l'État, de travailler pour l'État, de se faire fonctionnaire, grand commis de l'État, etc. Et donc c'est ce qui va se passer, il y a une survalorisation dans la communauté israélite de l'époque de la fonction du service de l'État. Voilà. Ce modèle-là va se gripper au moment de l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que l'affaire Dreyfus va mettre une partie de ces grands juifs d'État dans la position très difficile de devoir gérer un antisémitisme qui vient de l'État. Et ça, Blum ne va pas le supporter. Et le moment de l'affaire Dreyfus est pour lui, très clairement, un moment de rupture vis-à-vis des normes implicites de la communauté israélite.
Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu à l'unanimité des voix le nommé Dreyfus Alfred, coupable du crime de haute trahison.
Donc il va critiquer cette trop grande proportion de juifs qui sont allés servir l'État, tout en comprenant évidemment pourquoi ils le faisaient.
De quoi a-t-il l'air, Picard ?
D'un tailleur juif qui pleure tout son or qui va à la poubelle.
Et donc ça va, dès ce moment-là, le mettre en, disons, en marge un petit peu de la communauté. Et lui va trouver un autre modèle de groupe juif qui émerge au même moment, qui est un prolétariat juif. Donc les juifs qui ne se sont pas embourgeoisés sont pour la plupart restés en Alsace-Lorraine, et donc ne sont pas des prolétaires au sens marxiste du terme, c'est des petits artisans, des petits commerçants, etc. Mais à la fin du siècle, en parallèle, du fait notamment de vagues d'immigration, commence à se constituer un petit prolétariat juif, plutôt avec des juifs venus de l'Est de l'Europe. Et Blum va beaucoup s'identifier, ou si ce n'est s'identifier, valoriser ce groupe juif-là, comme étant un groupe juif qui est lui-même caractérisé par une dynamique d'émancipation individuelle, mais avec un rapport différent à l'État. et notamment la dynamique d'émancipation que connaît ce groupe-là est beaucoup plus intégrée dans la dynamique générale du socialisme. Donc, c'est-à-dire avec une prétention à la destruction de l'État bourgeois au profit d'un État qui vaille pour toutes les classes sociales, etc.
Donc avec une perspective clairement révolutionnaire.
Clairement révolutionnaire. Donc ça, c'est le premier aspect qui distingue grandement Blum de la communauté juive française de l'époque.
Quelle va être son attitude, d'ailleurs, Jean-Noël Jeannet, pendant cette affaire Dreyfus ? Il n'entre pas tout de suite aux côtés des Dreyfusards dans cette lutte.
Comme beaucoup d'autres, il était tellement difficile d'imaginer que l'armée française aurait pu accomplir une iniquité que la plupart de ceux qui ont été mis en garde par la famille de Dreyfus se sont d'abord refusés à lui croire. Ça a été vrai de Jean Jaurès, ça a été vrai de Clémenceau, ça a été vrai de Léon Blum. Mais quand il a été convaincu de cela, bien sûr, sa détermination était inflexible. Cela étant dit, il n'a pas joué le rôle qu'ont joué les grands tribuns, les hommes politiques. D'abord parce qu'il était membre du Conseil d'État à l'époque et qu'il était par conséquent contraint à un devoir de réserve. Il ne pouvait pas s'exprimer publiquement. Mais enfin, il a été dans tous les comités qui sont battus pour faire innocenter le capitaine ignoblement condamné. Et c'est d'ailleurs là qu'il a fait connaissance de Jean Jaurès. Il s'est rapproché de lui, qui lui était au premier plan avec Clémenceau de la bataille, et qu'il a noué des liens de considération, d'amitié, qui ont compté pour la suite. Qui explique aussi que quand, un peu plus tard, Jean Jaurès fonde l'Humanité, un peu plus tard, en 1904, Léon Blum y participe avec d'autres. Mais enfin, toujours en retrait. Il est d'abord, à ce moment-là, il est d'abord un juriste, qui a beaucoup compté dans l'histoire du droit administratif. Des arrêts fameux ont été de sa plume. Et puis, c'est un critique théâtral, c'est un homme de lettres. Il se veut d'abord homme de lettres.
Léon Blum se marie 3 fois au cours de sa vie et l'un des tout premiers ouvrages qu'il publie, c'est un ouvrage d'ailleurs sur le mariage qui détonne fortement dans son époque, Dominique Missica.
La publication du mariage, non seulement elle détonne, mais elle fait scandale. Parce que propose et que prône Léon Blum, ce qui est quand même aussi un signe d'une liberté d'esprit une liberté d'esprit qui m'a toujours plu. Si il dit, les femmes doivent bénéficier de la même liberté sexuelle que les hommes avant le mariage. Pour qu'un mariage soit réussi, il faut qu'elles aient connu d'autres hommes auparavant, et qu'elles connaissent leur corps, le plaisir de la découverte, etc. C'est quand même, 1907, c'est un scandale. C'est-à-dire que, alors, soit on est un peu gêné, on en parle à demi-mot, soit on est quand même assez estomaqué par autant de liberté de ton, d'esprit et de mœurs. Je crois que ça montre que Léon Blum aime l'amour. C'est un séducteur, c'est un grand amoureux, c'est indéniable. Certes, il est marié extrêmement, je dirais, conventionnellement ou bourgeoisement.
La première fois.
La première fois avec Lise Bloch, qui est une femme tout à fait bonne épouse, maîtresse de maison parfaite, qui lui donne un fils, Robert Blum, qui sera d'ailleurs un enfant unique, auquel Léon Blum consacrera beaucoup de temps, beaucoup de soins et d'attachement, ce qui n'est pas fréquent à l'époque pour les pères. Parmi les couples qui l'entourent, il y a une jeune femme qui s'appelle Thérèse Pereira et qui est absolument charmante. À l'opposé de Lise Bloch, elle est sportive quand Lise préfère rester allongée et lire. Thérèse joue au tennis, elle conduit une voiture, elle est musicienne. Donc, elle est attirée par ce Léon Blum, auréolé du prestige du Conseil d'État, de sa carrière de critique théâtrale, ami de Georges Portoriche, qui est un auteur très connu à l'époque. Il est toujours très élégant, sa fine moustache, voilà. Bref, une love story. Love story qui est quand même d'un classicisme à toute épreuve, puisque la pauvre Lise découvre l'infidélité de son mari, qui avoue une liaison avec Thérèse Pereira, qui n'a fait ni une ni deux et qui a divorcé. Malheureusement, tout aussi classique, on connaît le schéma, Léon Blum, s'il avoue, refuse de divorcer et le couple reste là. Et c'est une sorte de ménage à trois. En tout cas, Lise Bloch ferme les yeux et Léon Blum entretient une liaison pendant 20 ans avec la fameuse et la jolie Thérèse Pereira.
Comment Léon Blum entre-t-il en politique, Jean-Noël Jeannet?
Quand on regarde l'itinéraire de Léon Blum, on ne peut par comparaison qu'être sensible au fait qu'il est entré assez tard en politique, assez tard, par rapport à d'autres qui avaient une vocation qui les a immédiatement jetés dans le forum. Il a fallu, pour qu'il se jette dans l'action politique, effectivement, une décision qui n'était pas évidente pour lui. Et comme souvent, ce sont les événements qui l'y ont conduit. Au lieu de rester simplement en marge du socialisme et de Jean Jaurès, la guerre, la Grande Guerre, l'a conduit à devenir chef de cabinet, directeur de cabinet d'un ministre socialiste, d'ailleurs de grand mérite, de grand talent, Marcel Samba, et par conséquent à se mêler des choses pratiques du gouvernement du pays, à réfléchir aussi au fonctionnement et à s'installer comme un des leaders du fait de son talent, du fait de sa conviction, du fait de son courage, du fait de sa vertu au sens latin du terme. S'installer comme un des leaders majeurs. Et lorsque est arrivé l'événement fondamental du coup de hache qui a été donné après la révolution bolchevique de 17 dans le mouvement ouvrier français, les socialistes d'un côté et les communistes de l'autre, au congrès de Tours, à ce moment-là, il a été en quelque sorte porté spontanément par son talent, par sa conviction, par son expérience récente à la tête de ceux qui allaient, comme il l'a dit lui-même, garder la vieille maison.
De quoi est né le socialisme ?
Léon Blum, 1er décembre 1929.
De la révolte des plus nobles sentiments de l'âme humaine, blessée par la vie, méconnue par la société. Le socialisme est né de la conscience de l'égalité naturelle, alors que la société où nous vivons est tout entière fondée sur le privilège.
Ce qui est frappant, c'est peut-être de constater que Léon Blum n'a jamais peur de faire partie d'une minorité. Je pense au congrès de Tours en 1920, qui va voir se déchirer le parti socialiste entre socialistes et entre communistes. Je schématise un peu parce que c'est un peu plus compliqué que cela, mais le parti explose d'une certaine façon. En tout cas, tout un courant communiste, les futurs communistes vont quitter la SFIO. Et à ce moment-là, Léon Blum n'a pas peur de devenir minoritaire. Il défend son parti contre l'adhésion à la Troisième Internationale que réclame Lénine à tous les partis socialistes après la révolution de 1917.
C'est un grand moment de l'histoire française et c'est un grand moment de l'histoire mondiale du socialisme. Blum se hisse là au niveau de Trotsky et de Lénine.
Pierre Birnbaum, historien.
Il élabore une réfutation théorique d'un courage extrême contre le bolchevisme, contre la Troisième Internationale, contre le centralisme démocratique,
contre le soviétisme d'une certaine
contre
façon,
contre la dictature du prolétariat telle qu'elle est mise en œuvre par l'URSS, par Lénine, et telle qu'elle veut être transposée en France par ceux qui vont suivre donc la Troisième Internationale et les conditions de la Troisième Internationale. Il va perdre le combat. Et le congrès de Tours est un moment crucial de la vie politique française, puisque le socialisme est battu, et Léon Blum sait qu'il est minoritaire, sait qu'il est battu, et il prononce ce discours, il dit « il faut bien que quelqu'un garde la vieille maison ».
Milo Lévy-Brulle.
Pour Blum, la révolution ne doit advenir qu'à un certain moment de développement du capitalisme, qui est allé jusqu'à ses plus importantes contradictions qui font que la révolution est inéluctable, et à un certain moment de développement intellectuel du prolétariat, que le prolétariat ait compris quel était son nouveau rôle et comment le réaliser, etc. Et cette préparation doit être, pour un marxiste classique, un préalable à la révolution. Or, ce que fait Lénine, c'est qu'il inverse la dynamique, c'est-à-dire qu'il dit qu'il faut qu'une avant-garde se saisisse de l'État et que c'est en ayant les moyens de l'État qu'on pourra ensuite préparer le prolétariat à son rôle dans la société communiste.
C'est-à-dire qu'on commence par la révolution, selon
vous. Exactement, exactement. On inverse la dynamique entre la fin et les moyens. Et donc, Blum s'oppose à cette position-là. Il s'y oppose en étant minoritaire. Les péripéties du Congrès vont faire que Lénine va rejeter une partie des hésitants dans les bras de Blum, disons. Et donc, Blum va être le leader, de fait, de l'opposition à la léninisation du Parti Socialiste. Donc, au lendemain du Congrès de Tours, il est avec Paul Faure, qui est une personnalité oubliée, mais importante, qui va être le leader de la SFIO pendant tout l'entre-deux-guerres, le véritable leader officiel avec Blum. Il est à la tête d'un Parti Socialiste extrêmement diminué, qui a perdu la grande majorité de ses militants, qui a perdu son journal, l'Humanité, et il va œuvrer à la reconstruction de ce parti.
Comment naît l'idée de Front populaire, Jean-Noël Jeannet ? Est-ce que Léon Blum fait partie de ceux qui vont formuler cette possibilité d'unir les forces de gauche pour gouverner la France?
Les années 1930 commençantes sont favorables à l'idée d'un regroupement entre les communistes et les socialistes, chose indispensable en vérité pour que la gauche ouvrière puisse arriver au pouvoir et pour faire des réformes qui apparaissent nécessaires à tous ces paladins. Donc il faut l'accord de Staline en fait. Et les choses évoluent beaucoup dans les années, au début 1932-33. D'abord, certains dirigeants socialistes sont limogés par Moscou en France parce qu'ils voudraient ce rapprochement. Et puis ensuite, les choses tournent et Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste, incarne cela en disant qu'il faut tendre la main non seulement aux socialistes, mais même aux catholiques. Même aux catholiques. Et c'est évidemment une conséquence de la situation internationale, de la menace que représente désormais Hitler, et d'autre part d'une évolution interne à la France, qui voit émerger des violences inspirées souvent par l'exemple des dictatures, l'arrivée d'une extrême droite beaucoup plus brutale qu'elle ne l'a jamais été ou qu'elle ne l'a pas été depuis les années 1895-1900, le 6 février 34, qui est une émeute devant le Palais Bourbon et qui inquiète beaucoup les républicains, forcément. Tout ça fait que qu'on se décide à se réunir. Il y a une rencontre symbolique de deux cortèges qui, en 1935, viennent signifier cela. Et c'est pourquoi cette expression de Front populaire, qui a aussi été utilisée en Espagne, cette expression fait Flores et va donner son nom au gouvernement issu des élections de 1936, qui sont des élections favorables à la gauche, comme ça n'avait pas été le cas depuis 1924 et auparavant. Avant la Grande Guerre.
Léon Blum, 12 février 1934.
Paris, rassemblé dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas la réaction, ne passeront pas. Vive la République des travailleurs!
Alors ce qui s'est passé, il faut remonter un petit peu pour comprendre le Front populaire à 1934 et même un petit peu avant.
Milo Lévy-Brulle.
Au début des années 30, les socialistes n'ont pas du tout l'intention de prendre le pouvoir. Ils s'y refusent parce qu'ils font une analyse qui est une analyse d'abord économique, qui consiste à considérer que l'état de crise du capitalisme depuis la crise de 29 prépare en fait la révolution et que donc la révolution arrivant, ce n'est pas du tout le moment de prendre la tête des institutions qui restent des institutions bourgeoises, qu'il faut être dans une position attentiste de préparation de cette révolution.
Donc il faut attendre l'étape suivante de l'entropie capitaliste.
Exactement, exactement. Et donc l'avant 1934 est un moment au contraire de plus fort éloignement du pouvoir. Ça c'est quelque chose qu'il faut entendre.
On la joue discrète.
On se prépare, on attend, on se tient le plus éloigné possible du pouvoir. Mais arrive février 34, c'est-à-dire cette tentative, petite tentative de putsch, ou en tout cas de prise en main de l'Assemblée nationale avec les grandes manifestations sur la place de la Concorde. dans un contexte européen d'agitation fasciste, qui conduisent Blum à penser qu'entre l'effondrement capitaliste et l'avènement du socialisme, il peut y avoir une phase intermédiaire, ou en tout cas que cette phase intermédiaire peut profiter aux fascistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce caractère d'automaticité entre effondrement du capitalisme et avènement du socialisme. Qu'en fait, il y a une mine de fuite là, qui va profiter à des groupes organisés qui ne sont pas du tout des groupes socialistes, qui sont des groupes fascistes. Et donc, ce qui se passe entre 34 et 36, la dynamique de Front Populaire, c'est une dynamique qui vise ce que Blum appelle l'occupation du pouvoir, donc pas la conquête du pouvoir, mais l'occupation du pouvoir, pour entraver la dynamique de fascisation de la société. Et l'idée, c'est d'accéder au pouvoir avec un programme, ce qu'on ne fait pas du tout quand on a une quand on est dans une perspective révolutionnaire, on n'annonce pas son programme. Donc avec un programme qui est un programme non pas socialiste mais anti-crise, et qui vise par un certain nombre de mesures à retenir une partie de la classe ouvrière, une partie de la classe moyenne qui serait attirée par le fascisme.
C'est un moment de très grande tension, de très grande violence.
Et une violence qui commence dès la campagne électorale qui va mener à l'élection du Front Populaire, puisque Léon Blum est agressé au mois de février 1936. On est en pleine campagne électorale.
Tout à fait.
Et il va être blessé de manière très, très inquiétante, d'ailleurs, Pierre Birnbaum.
Là encore, il suffit d'aller aux archives de la police pour retrouver les documents ayant trait à cet attentat. Parce que nous sommes en février 36, Léon Blum quitte le palais Bourbon, il va dans la voiture de son ami, un député Monet, il s'appelle Monet, avec sa femme, il est assis à l'arrière, et puis en empruntant le boulevard Saint-Germain, pour retourner chez lui, donc il quitte l'Assemblée nationale, vous voyez bien, il va dans le boulevard Saint-Germain, et là il tombe sur un énorme défilé de l'Action française, il est reconnu, et alors c'est non pas le massacre, mais quasiment le massacre, on tape sur la voiture, aux archives de police, il y a des photos qui sont prises, tout à fait impressionnantes, de la violence, de l'attaque contre la voiture.
Quand on démarre dans la rue de l'université, on ne voit pas.
Georges Monet,
boulevard Saint-Germain,
ancien député socialiste, dans Léon Blum ou la fidélité, de Jean-Noël Jeannet.
Et nous nous sommes donc avancés sans avoir l'impression qu'il y aurait quelque encombrement sur cette route que nous suivions souvent. Mais quand nous sommes arrivés à cet angle, nous avons été bloqués par ces militants qui sont agglomérés autour de la voiture et qui ont tapé à coups redoublés sur les vitres, ce qui n'était pas encore bien grave, mais l'un des agresseur a arraché la rampe de tôle qui servait à l'éclairage de la voiture à l'arrière, s'en est servi comme une sorte de piquet avec lequel il a cassé la lunette arrière et malheureusement a atteint Léon Blum à l'oreille et à la tempe.
Heureusement, il y a des ouvriers qui construisent une maison ou quelque chose pas loin, qui viennent à son secours, la police vient à son secours, et on a là une sorte de trépané. On a un bonhomme dont le visage est méconnaissable, entouré de bandelettes comme une momie, transporté à l'hôpital, il est allongé, c'est un drame national. Et très vite se met en place, deux mois après, je pense, ou un mois après, ou 15 jours après, excusez-moi, un énorme défilé de protestation qui traversent tout Paris, ils ont failli tuer le camarade Léon Blum. C'est un moment extraordinaire, puisque nous sommes en février, les élections du Front Populaire ont lieu en mai, et Léon Blum accède au gouvernement en juin, si je me souviens bien. Donc c'est une temporalité très rapprochée, et il est possible que cet attentat d'une violence extrême ait participé, au fond, de la manière dont qui a favorisé les élections des députés socialistes comme manière de protester contre un attentat qui a failli le tuer comme exactement comme Jaurès quelques années avant. Il a failli mourir comme Jaurès. Donc on a là une figure emblématique presque un martyr, presque un saint du socialisme.
C'est tout le pays qui frémit d'impatience, c'est tout un peuple qui réclame du pain. Vas-y sans peur, tente ton expérience, nous sommes là pour faire taire les coquins. Vas-y Léon, défends ton ministère. Vas-y Léon, faut que Marianne...
Bon, même 1936, c'est le socialisme qui l'emporte, ce sont les députés socialistes qui sont les plus nombreux, qui sont plus nombreux que les députés communistes. Et donc, le Parti communiste qui espérait emporter ces élections ne les emporte pas. Et donc, c'est Léon Blum, chef des socialistes, qui sont les plus importants, qui devient chef du gouvernement.
Le gouvernement de Front Populaire est constitué.
Léon Blum, 5 juin 1936.
Son programme est le programme du Front Populaire. Il est donc résolu à agir avec décision et rapidité pour les travailleurs de la terre comme pour les travailleurs des usines. Il fera tout son devoir. Il ne manquera à aucun des engagements qu'il a pris. Mais sa force réside avant tout dans la conscience qu'a mise en lui le peuple de France. Et il en réclame aujourd'hui le témoignage aux millions d'électeurs qui l'ont porté au pouvoir.
Imaginez ce bourgeois qui habite à l'île Saint-Louis, qui a un bel appartement, qui est habillé élégamment, qui reste encore un dandy dans son comportement, qui devient le chef du peuple, le chef du prolétariat, et qui transforme, qui bouleverse la société française comme on l'a jamais fait. En quelques mots, les congés payés, la semaine de 40 heures, la reconnaissance du syndicat d'entreprise, les conventions collectives, la transformation du statut de la Banque de France. Mais c'est incroyable. L'augmentation des salaires. Mais c'est absolument stupéfiant. En quelques mois, on n'a jamais changé la société française de cette manière.
La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille.
Les ouvriers ont une dévotion à son égard. J'ai trouvé dans les archives mais des centaines de télégrammes, de cartes postales, de lettres au camarade Léon. Imaginez le camarade Léon qui habite l'île de la Saint-Louis, les beaux quartiers.
C'est un grand bourgeois désormais.
Un bourgeois, mais c'est en lui que se reconnaissent les ouvriers. C'est grâce à toi, Léon, des lettres extraordinaires. Pour la première fois, je vois la mer, des lettres avec, on voit des cartes postales avec des auberges au fin fond de la Creuse ou du Berry.
Tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum. Je n'entends que boum, boum, ça fait toujours boum.
Léon Blum, discours à Luna Park, 6 septembre 1936.
Croyez-vous, quand je lisais comme vous, dans les dépêches, le récit de la prise d'Irun et de l'agonie des derniers miliciens, est-ce que vous croyez par hasard que mon cœur était moins déchiré que le vôtre? Vous ne croyez rien de tout ça, n'est-ce pas? Alors...
Il y a un épisode peut-être où on voit peut-être pour la première fois Léon Blum hésiter et renoncer justement à avoir une position politique minoritaire. C'est au moment de la guerre d'Espagne. Le Front Populaire est encore au pouvoir à ce moment-là. Il aurait plutôt tendance à aller aider les républicains espagnols contre l'armée franquiste. Et finalement, il va y renoncer. Milo Lévé-Brulle.
Tout à fait. Alors il y a deux moments. Il y a un moment au début des hostilités où il fait venir des armes et en fait il prépare une aide importante. Et puis il y a le moment où la question se européanise et où porte en elle le risque d'un conflit généralisé. Et donc les différentes puissances, et notamment l'Angleterre, veulent à tout prix temporiser. Et donc la deuxième phase du soutien est beaucoup plus clandestine. Donc elle se fait, il y a un approvisionnement en hommes, en tout cas on laisse passer les hommes qui veulent s'engager dans les brigades internationales. Il y a un approvisionnement qui est discret en armes, que d'ailleurs les plus proches de Blum prennent en charge de manière discrète.
Mais officiellement l'État français
ne prend pas parti. Donc évidemment, il y a un grand discours de Blum où il explique à quel point il a eu le cœur déchiré de ne pas pouvoir intervenir. Et en même temps, il y a un certain nombre d'ordres de justification. Il y en a deux qui sont assez connus. C'est la première, donc c'est au niveau de l'équilibre partisan au sein du Front populaire, avec une opposition du parti radical à toute intervention, qui fait qu'une intervention aurait entraîné de fait l'écroulement du Front populaire d'un point de vue de la majorité à l'Assemblée. Donc ça, c'est la justification interne à la politique française. Il y a une justification qui est de niveau européen, c'est l'équilibre des puissances. L'Angleterre, pour le coup, est opposée à une intervention, et donc une intervention aurait placé la France en face de l'Allemagne et de l'Italie, avec une Angleterre neutre, et donc dans une position de très grande faiblesse, eu égard notamment au projet hégémonique qu'a alors l'Allemagne nazie. Donc ça, c'est les deux ordres de justification qui sont habituellement donnés. Et puis Blum lui-même, dans une lettre qu'il écrira pendant sa captivité, pendant la guerre, en donne un troisième, qui est pour lui en réalité le plus important. C'est que, à son avis, les passions et les divisions au sein de la société française étaient telles qu'une intervention décidée de la France aux côtés de l'Espagne républicaine aurait conduit une partie de l'armée française à désobéir en fait au gouvernement français. Et donc ce qu'il voit surtout lui dans un engagement français, c'est la perspective d'un coup d'État sur le modèle en fait espagnol, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en Espagne se reproduise en France, et donc d'une guerre civile. Et ça, il l'écrit très clairement. Et tout ce qui va se passer ensuite, aussi bien entre 1938 et 1940 que après, sous la collaboration, le conforte dans cette idée qu'il avait eue que, en réalité, la France était à ce moment-là au bord de la guerre civile et que cette décision-là aurait mis le feu aux poudres.
L'année 1938 est vraiment l'année de tout le... Je sais pas comment dire. L'année 1938, c'est une année du désastre pour Léon Blum.
Dominique Missica.
Malheureusement, Thérèse Blum est malade. Et le 27 janvier 1938, elle meurt. D'ailleurs, la mort de Thérèse, brutale, la fin du Front populaire, de cette aventure extraordinaire, les accords de Munich, tout concourt à le rendre extraordinairement triste et déprimé. Il va aller dans le Midi chez un de ses amis pour essayer de remonter, comme on dit, pour remonter la pente. Il est abattu, il est découragé, il est prêt à tout abandonner, plus rien n'a de goût. Je crois qu'il a vraiment sincèrement et passionnément aimé Élise, son première épouse, et Thérèse à l'infini. Il est seul, il est veuf, tout s'effondre. Et c'est vrai que c'est le moment où la troisième femme de Léon Blum fait son apparition, non pas qu'elle n'existait pas auparavant, mais disons qu'elle se rapproche et que, sans aucun doute, le désespoir de Léon Blum a trouvé du réconfort chez Jeanne Levillier.
Avec son accession à la direction de la République française, vient aussi un durcissement de l'hostilité à l'encontre de son personnage public. C'est-à-dire que plus Blum avance dans sa carrière et dans son aura politique, plus il est attaqué, Jean-Noël Jeannet.
On se plaint aujourd'hui souvent de la violence des échanges politiques. À ceux qui agitent cela, parfois avec de bons arguments, on a envie de dire « reportez-vous aux années 30 ». où il y avait une tension, une violence entre la partie de la droite, pas la droite républicaine, l'extrême droite, et la gauche, dont on a perdu parfois le sentiment. Et un homme comme Léon Blum était fait pour attirer spécifiquement la haine des milieux d'extrême droite qui s'agitaient autour de l'Action française et un certain nombre de ligues qui se sont développées à ce moment-là, autour de Doriot par exemple. Il était fait pour attirer leur haine puisqu'il était le chef du socialisme et puis aussi parce qu'il était, Blum, le juif. Et ça, c'est un élément fondamental. Il faut rappeler, on l'a souvent oublié, les termes que Charles Maurras, le grand penseur de l'Action française, qui a été influent dans beaucoup de couches de la société, beaucoup plus profondément qu'on ne peut le croire. Charles Maurras a parlé de Blum dans des termes qui l'ont finalement conduit en prison, tellement ils étaient injurieux. Vous n'avez pas un couteau de cuisine. C'est un homme à fusiller dans le dos, un détritus humain. Quand on relit cela, il faudra le fusiller dès qu'il y aura la guerre, etc. Si on parle de Léon Blum et qu'on retrace son itinéraire, je crois qu'il ne peut pas faire l'économie de ce qu'a été cette tension-là. Il y avait des courants d'une grande violence qui étaient destinés à prendre Léon Blum comme leur tête de Turc, comme le sang de tout ce qu'ils pouvaient détester. Et d'ailleurs, on retrouve ce donné en 1940, au moment du 10 juillet 40, lorsque le Sénat et la Chambre des députés ont délégué leur pouvoir au maréchal Pétain. Le Parti socialiste SFIO s'est divisé en deux. Léon Blum a voté contre, mais il ne s'est pas exprimé, même devant la presse, parce que il avait l'impression que s'il s'exprimait, premièrement, il contribuerait à couper en deux son parti, et d'autre part, il ne faciliterait pas la cause qui était la sienne. Donc, il l'a parfois un peu regretté ensuite. Voilà. Alors après, je dirais que le fait qu'il ait été si symbolique à cette époque-là explique aussi pourquoi, symboliquement, le régime infâme de Vichy l'a traité comme un paria, l'a mis en prison de façon absolument unique et sans aucun motif à partir de septembre 1940, en dépit de son immunité parlementaire.
Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France.
Philippe Pétain, maréchal de France, après la défaite française face à l'Allemagne, le 17 juin 1940.
Tradition militaire, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur.
Blum, c'est comme la plupart des députés repliés sur le sud de la France, donc il a été, depuis la percée allemande, hébergé autour de Toulouse. Et puis il apprend que Laval a l'intention de faire voter par l'Assemblée réunie, enfin par le Congrès en réalité, l'Assemblée et le Sénat réunis, l'attribution des pleins pouvoirs, du pouvoir constituant au maréchal Pétain. Donc il se rend à Vichy.
Dans cette ambiance de défaite militaire, puisque la France a perdu la guerre.
Exactement. Mais après la capitulation. Il se rend à Vichy alors que la presse vichiste avait annoncé qu'il était arrivé à New York avec sa vaisselle d'or, donc déjà son arrivée fait sensation.
Donc on avait annoncé qu'il avait fui, ce
bien
qui était
sûr,
faux.
Évidemment, ce qui était évidemment faux. Et on avait annoncé qu'il avait fui avec cette fameuse vaisselle d'or qu'il l'a poursuivie toute sa vie et qu'il n'a évidemment jamais eu. Donc il arrive, son arrivée fait sensation, et il raconte qu'il croise Laval dans un couloir, qu'il tombe des nues de le voir ici, et il va essayer, il passe quelques jours à Vichy, il va essayer de regrouper les différents députés socialistes pour asseoir une position qui est évidemment une position d'opposition à ce que propose Laval. Donc il y a une première réunion qui a lieu la veille du vote, dont il sort revigoré en voyant l'espèce d'unanimité qui règne dans ses troupes, en tout cas pour une opposition au vote des pleins pouvoirs à Pétain. Et puis il raconte comment sous l'effet de la peur, de l'intérêt, des manœuvres de Laval qui promet à un tel qu'on le retrouvera s'il vote pas comme on l'entend, ou au contraire que s'il vote comme on l'entend, il peut aspirer à telle ou telle position. Comment petit à petit, en quelques heures, cette unanimité du groupe socialiste constitué se délite, et la position dans laquelle il se retrouve le lendemain, c'est-à-dire d'être minoritaire au sein même de son groupe parlementaire, de ce groupe qu'il a dirigé pendant plusieurs décennies. Et donc, de fait, il est... il faut imaginer la scène, c'est la pression est énorme, il y a dans les travées Laval a fait venir des partisans à lui, Doriot aussi qui sera un des principaux collaborationnistes ensuite a fait venir un certain nombre de ses troupes qui font la claque, qui sont extrêmement menaçants, qui empêchent de parler certains orateurs dont on pressent qu'ils pourraient avoir une position contraire à ce qu'attend Laval. Et donc dans ce contexte-là, il reste en réalité très silencieux. Sur son banc, et il se contente de, évidemment, voter contre l'attribution des pleins pouvoirs à Pétain, et avant même d'attendre la fin du vote, parce qu'il est menacé physiquement, dans un précédent passage à Bordeaux, il a été exfiltré parce qu'on craignait vraiment pour sa vie. Donc avant même d'attendre la fin du vote, il quitte le casino de Vichy où a lieu le vote, passe voir le responsable du régiment de son fils qui a été fait prisonnier pour s'assurer que son fils a bien été fait prisonnier et qu'il n'est pas mort au combat, et il retourne dans cette maison en périphérie de Toulouse où il va passer les premières semaines de l'occupation et du gouvernement de Vichy avant d'être arrêté.
Le maréchal Pétain, chef de l'État, vous parle.
16 octobre 1941.
Composé d'anciens combattants d'élite et de grands serviteurs du bien public, le Conseil de justice a estimé à l'unanimité que la détention dans une enceinte fortifiée, la peine la plus forte prévue par l'acte constitutionnel numéro 7, devait être appliquée à messieurs Édouard Daladier et Léon Blum, ainsi qu'au général Gamelin. J'ordonne en conséquence la détention de ces trois personnes au fort du Portalet.
Donc, il est arrêté en septembre 1940. Il est incarcéré. Il va être incarcéré dans différentes prisons en France. Il est jugé une première fois par Pétain, parce que Pétain s'est arrogé, y compris le pouvoir judiciaire. Donc, il est condamné par Pétain. Et ensuite, pour des raisons essentiellement de propagande, Pétain, qui l'a déjà condamné, veut qu'un procès se tienne, et que ce procès soit, selon ses termes, l'occasion de mettre en lumière les responsabilités du Front populaire.
Donc il met sur pied une cour suprême extraordinaire.
Exactement, une cour de justice extraordinaire qui siège à Rion, et qui va juger Léon Blum, Daladier, Gamelin, et un certain nombre d'autres responsables des années 40, mais essentiellement, en réalité, Léon Blum et Daladier. Alors même que Léon Blum, par rapport aux autres accusés, est en réalité très loin du pouvoir depuis 2 ans. En 1940, ça fait 2 ans qu'il est très loin du pouvoir, il est simple député.
C'est l'intrus.
Exactement, c'est l'intrus parce que, d'un point de vue symbolique, il a été érigé comme bouc émissaire par le maréchal Pétain. Ce qui est condamné, au-delà de la défaite, c'est, selon le mot de Pétain, un esprit de jouissance qu'auraient représenté Blum et le Front populaire. Donc le procès commence au printemps 1942. Sauf que ce qui va se passer, c'est que Léon Blum et Daladier vont totalement retourner l'accusation. Léon Blum s'amuse à se demander pourquoi est-ce qu'on fait remonter la recherche des responsabilités dans le non-armement de la France à 1936 et pas à 1934. 1934, quand le ministre de la guerre français s'appelait Pétain. Donc par un certain nombre de questions en apparence innocentes et badines, en réalité, il montre pas seulement son innocence sur ce qui lui est reproché, mais la responsabilité de ses accusateurs. Pourquoi est-ce que la ligne Maginot n'a pas été prolongée dans les Ardennes? Ah, parce que Pétain pensait que c'était pas une bonne idée. Où est-ce que s'est fait la percée dans les Ardennes? Donc c'est un retournement total de l'accusation, à tel point que, après avoir inondé la presse française et internationale, qui a été invitée à couvrir le procès, parce que c'était le procès des années qui ont mené à la défaite, donc après avoir couvert cette presse d'injonction à la censure de ce que disent les accusés, tout bonnement, le procès est ajourné. Et on arrête le procès, parce que le principal effet du procès, c'est un effet de... régénération morale, d'entrain moral de la France, un changement dans l'opinion. Donc Blum est ramené en prison sans avoir été jugé, et il écrit qu'il est extrêmement satisfait de ce qu'il a fait, de ses prestations, parce qu'il a participé à la décrédibilisation de ce régime et au regain, au réveil, ces expressions, de la fierté patriotique des Français qui ont entendu, malgré la censure, sa plaidoirie. Et de fait, le moment du procès de Rion correspond à un moment de lequel les rangs de la résistance socialiste vont grossir.
Léon Blum a expliqué que le procès inique qui lui était attenté à Rion n'était pas seulement un procès contre le Front populaire, contre la gauche en mouvement, mais au fond un procès contre la République. Un procès contre la République que détestaient Pétain et les siens. Et par conséquent, il a affirmé aussi que défendre la politique qui avait été la sienne, c'était défendre Marianne, c'est défendre la République. Et ça a donné, évidemment, à son propos, comme à ceux d'ailleurs de Daladier, un écho, un éclat particulier, qui était insupportable à Vichy, qui n'a eu qu'une solution pitoyable, c'est-à-dire de suspendre le procès et de décider que, de façon purement régalienne, Léon Blum, bien que n'ayant pas été jugé, continuerait d'être enfermé.
Et puis, le drame survient, c'est-à-dire que la Gestapo débarque, la Gestapo en uniforme, et donc emmène Blum à Buchenwald.
Alors, pas dans le camp de concentration.
Pas dans le camp de concentration, mais enfin, à la lisière, dans une petite maison, à la lisière, dans le camp lui-même quand même. Et il va y passer 2 ans. C'est pas rien. 2 ans, en sachant très bien qu'il peut mourir d'un jour à l'autre. En ayant quand même conscience de ce qui s'y passe dans ce camp, il voit des choses tout de même par les fenêtres.
Il ne voit pas tout, il n'est pas.
Et il ne voit pas tout, bien évidemment, il ne sait pas ce qu'est la Shoah, bien sûr. Mais il sait qu'il est menacé, et d'ailleurs, la preuve en est que Georges Mandel est à ses côtés pendant 1 an.
Puisque lui aussi est otage de l'État allemand.
Et lui aussi est juif. Et lui aussi a été ministre de l'Intérieur, du socialisme. Et donc, lorsque Herriot est assassiné en France...
Le ministre de la propagande française. Oui.
On vient chercher Mandel. Et Blum l'aide à faire ses bagages. Il sait très bien ce qui va se passer. Mandel sait très bien ce qui va se passer. Et on retrouve son cadavre dans la forêt de Fontainebleau quelques jours après. Et Blum sait très bien que son tour... va venir très vite. Il écrit des textes tout à fait extraordinaires, dont il laisse un exemplaire à son fils et il donne un autre exemplaire au responsable du camp de Buchenwald, en imaginant qu'il va le conserver. Et c'est un texte où il dit je n'ai pas la haine des Allemands. Il n'y a pas de race maudite, alors qu'il est enfermé par la Gestapo. Quoi.
Finalement, Léon Blum a pu survivre et être libéré quelque temps plus tard par les Américains.
Je ne suis pas l'un des martyrs.
Léon Blum à New York.
Nous avons connu en Allemagne
le 4 décembre 1947.
La séparation totale du reste du monde et la suspension permanente de la mort. Mais je suis un témoin. J'ai vu de mes yeux, comme dans les bas-reliefs égyptiens ou assyriens, la longue file des captifs, attelés comme des bêtes de somme aux chariots chargés de pierres, ou courbés sous les longues pièces de bois qui faisaient plier leurs épaules. Des nuits durant, j'ai respiré l'odeur des fours crématoires. Pendant ce temps, le peuple de France souffrait de toutes les formes de l'oppression, de la persécution et de la misère.
Léon Blum témoigne après la Seconde Guerre mondiale au cours du procès de Pétain.
Il ne revient pas à Léon Blum d'exprimer la violence des reproches C'est un mot faible qu'on pouvait avoir à l'égard de Pétain et de son régime. Donc il essaye d'apporter, comme on le lui demandait, un éclairage sur ce qui s'est passé le 10 juillet 1940 à Vichy. Il parle, si j'ai bonne mémoire, de quelque chose comme un acide qui rongeait les armes et qui, dans la circonstance du temps, explique pourquoi tant de gens ont accepté de se ruer dans la servitude.
Y compris des socialistes.
Une partie des socialistes. Donc il a réfléchi à ce qu'une défaite aussi brutale, aussi épouvantable, tel coup sur la tête des acteurs et des Français en général, avait pu créer de désarroi, d'incertitude et de quête, au fond, éperdue de quelqu'un à qui se raccrocher. On cherchait une bouée de sauvetage. Cette analyse est assez lucide.
Quel rôle va jouer Léon Blum après la libération ?
Quand Léon Blum arrive à Paris, libéré par les Américains, ce retour est salué avec un mélange d'intérêt, de curiosité et de vive sympathie. Il a pris la figure d'un homme qui a tenu bon dans les prisons de l'infamie et qui revient avec tout un héritage, à telle enseigne que De Gaulle lui propose d'entrer dans son gouvernement, gouvernement provisoire, parce qu'il lui paraît que cela contribuerait à un bel équilibre des forces qui ont résisté pour servir les changements, notamment sociaux, qu'il aspirait à introduire. Léon Blum refuse. Il explique que... Il dit, je vais vous faire de la peine, dit-il à De Gaulle. Non, non, lui répond De Gaulle, vous ne me faites pas de la peine, vous me gênez. Et alors on le charge d'un certain nombre de missions. On l'envoie par exemple aux États-Unis pour négocier des traités financiers avec les Américains à la suite de la guerre. Les accords Blum-Burns. D'ailleurs, on lui a reproché d'avoir trop cédé sur le cinéma et il a expliqué que lui, ce qu'il aimait, c'était le théâtre et que ça expliquait les choses. Il est mort en 1950 à 77 ans. Il est mort dans sa maison de Jouy-en-Josas, dont on a fait aujourd'hui un musée qui mérite d'être visité, accompagné de sa troisième femme, Jeannot Blum, qui avait eu le courage elle-même de le retrouver à Buchenwald, avec l'autorisation, je veux dire, de Pierre Laval, pour l'y épouser. Et c'est elle qui a accompagné, en fait, Léon Blum dans ses dernières années. Mais il a disparu à un moment où il avait gardé la plénitude de son intelligence, sa capacité d'analyse. Et au fond, rétrospectivement, c'était le mieux qu'on aurait pu lui souhaiter.
Alors on l'a transporté, il était dans deux autres côtés de la pièce et on l'a transporté ici. Il n'a presque rien dit. Il est mort tout doucement et il m'a dit simplement, ce n'est rien. N'ayez pas peur pour moi.
Et si mon dernier verre était mon dernier doute, cette croisée de route a su me rendre fier. Amis, levons les verres et remplissons nos soutes, pour autant que ça coûte. On s'est aimés hier.
Merci à Pierre Birnbaum, Dominique Missica, Jean-Noël Jeannet et Milo Lévy-Brul.
Une belle envie de voir ce que l'on va faire.
Prise de son, Benjamin Thuot. Mixage, Manuel Couturier.
Une timidité folle s'est embrasée pour rire. Et c'est à vous d'écrire un bout de farandole. C'est maintenant qu'on rigole, puisqu'on va plus mourir. Si on plante l'avenir dans un champ de paroles.
Léon Blum, Une politique pour la vie. Quand je vous disais qu'on y un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Marie Placet.
L'air frais qu'on a bu. C'est une fin têtue. Ce sont des adieux gais. Je le sens, je le fais, je me courbe et... Salut. Des hommes tremblants. Des cœurs battants. Et puis, la belle affaire.